D'une façon assez générale, les rites thérapeutiques, comme ça vient d'être dit, en Afrique, ont pour but de réinsérer les individus dans l'ordre parental. Parce que guérir, ça revient finalement à se réinsérer dans l'interdit de l'inceste, qui est la loi des lois, comme on le sait en anthropologie, et surtout depuis les travaux de Lévi-Strauss. Voilà, alors ce qu'il y a de particulier dans la société, la seconde société dans laquelle j'ai travaillé, les Péré de la Damawa du Cameroun, c'est que cette société est matrilinéaire et que la réinsertion des individus se fait dans le système de parenté matrilinéaire. Alors qu'est-ce qu'un système de parenté matrilinéaire? Ce que je peux vous dire un peu d'expérience, c'est quelque chose de très différent d'un système patrilinéaire. Et je peux d'autant plus en parler que j'ai travaillé avant dans une société patrilinéaire chez les Bamileke au Cameroun, dans la région centre-ouest. Et que lorsque je suis passé des Bamileke au Péré, j'ai eu l'impression carrément de changer d'univers. Je me suis demandé même si j'étais encore en Afrique. Tout me paraissait très très différent, à part le fait que j'étais toujours parmi des Africains. Alors c'est vrai qu'entre le pays Bamileke et le pays Péré, il n'y a pas seulement des différences de parenté. Il y a des différences écologiques. Les Bamileke appartiennent au monde de la forêt. Et vous savez que dans le monde de la forêt, on se nourrit de tubercules, de macabo, de taro, d'igname et de bananes plantain. Alors que dans la savane, on se nourrit de sorgho et de mil. Et les Péré sont céréiculteurs. Et c'est effectivement, c'est très différent au point de vue nourriture, puis au point de vue écologique. De même, les Bamileke nous élèvent des petits porcs de Guinée, des petites chèvres de Guinée, et que les Péré ne connaissent pas. Ils connaissent uniquement le mouton. De même, autrefois, la chasse se faisait au filet chez les Bamileke, et chez les Péré, la chasse continue encore de nos jours, pour certains, à se faire à l'arc. Donc, il y a effectivement des différences importantes de relations à au monde entre les Bamileke et les Péré. La seconde différence aussi, alors qui est très importante entre ces deux sociétés, c'est que les Bamileke vivent en chefferie. C'est en chefferie très hiérarchisée, dirigée par un chef et 9 notables, et avec des lignages qui forment carrément un système pyramidal. Un système pyramidal, c'est-à-dire que vous avez le lignage du chef, puis ceux des notables, ceux des serviteurs, et puis ensuite ceux des villageois, et c'est une structure très centralisée. Alors que les Péré appartiennent au contraire à ce qu'on appelle une société acéphale, c'est-à-dire une société où tous les clans sont égaux entre eux. Je les ai marqués là, il n'y a pas du tout de chef qui domine, tous les clans sont égaux entre eux. Et ce qui fait le lien effectivement entre tous ces clans, ben, c'est ce que j'ai marqué un peu en rouge, c'est les classes d'âge. Et ça avait été déjà largement expliqué par les ethnologues anglais, par les ethnologues fonctionnalistes anglais. Donc effectivement, il n'y a pas seulement de différences écologiques, il y a aussi des différences d'organisation sociale. Mais néanmoins, c'est quand même les différences qui m'ont sauté aux yeux sont de l'ordre de la parenté. Alors ce qui m'a particulièrement étonné tout de suite quand je suis arrivé, le rapport à la sexualité est tout à fait différent, était tout à fait différent de l'une à l'autre. Autant les Bamileke sont prudes, ont une certaine réserve par rapport à la sexualité et même sont plutôt, je dirais, puritains d'une certaine façon, autant les Péré, alors, ont une vie relâchée par rapport à la société qui est absolument étonnante et qui ne concerne pas uniquement les adolescents, comme ça arrive très souvent en Afrique, mais qui concerne alors vraiment toute la population, ce qui fait qu'effectivement, chez les Péré, comme je vous l'indiquerai encore tout à l'heure, ils peuvent se marier plusieurs fois au cours de leur vie. Les mariages se font avec plusieurs personnes au cours de la vie. Donc la sexualité est quelque chose de très libre. De même, les femmes en Afrique sont beaucoup plus indépendantes que ce que nous pensons. Elles sont très autonomes. Mais chez les Bamileke, cette autonomie des femmes se fait toujours un petit peu cachée. Elles s'arrangent toujours à rester un peu, faire semblant de bien rester derrière les hommes pour pas qu'on les voit en avant. Par contre, chez les Péré, les femmes alors se mettaient terriblement en avant, moi c'est moi, et effectivement on sentait qu'il y avait une égalité des sexes beaucoup plus marquée. La seconde différence alors très forte entre les Bamileke et les Péré, c'était que chez les Bamileke, c'était la religion qui primait, c'était la religion aux ancêtres, puis que tout était fondé sur les sacrifices, et que tout ça se comprenait très très bien. Par contre chez les Péré, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est la magie. Et les rites magiques n'en finissent plus. J'ai enregistré un certain nombre de rites qui sont d'ailleurs remis et replacés dans ce livre. Mais quand je les enregistrais, puis quand je les décodais, quand je les reprenais avec le magnétophone, avec les informateurs pour les transcrire, ça m'ennuyait parce qu'effectivement, je voyais rien qui émergeait d'une analyse structurale que j'avais pu faire chez les Bamiliki, qui marchait très très bien, chez les Perret, rien ne marchait. Enfin, leur tradition orale. Leur tradition orale est aussi très différente des Bamiliki. Chez les Bamiliki, la tradition orale, les contes se terminent toujours par une ambivalence, et ceux qui sont bien et mauvais, et les deux sont bien marqués. Chez les Perret, ça termine comme ça, dans une espèce d'impossible, on ne sait pas où ça s'arrête, et on a une sorte de malaise même quand j'écoutais ces contes, parce que existentiellement, il y avait quelque chose de triste, mais en même temps quelque chose d'impossible qui était marqué dedans, et qui n'est peut-être pas sans rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ça avait été une société qui avait été une sorte de réserve d'esclaves, dans lequel les autres sociétés venaient ponctionner des esclaves. Bien, voilà, alors toutes ces raisons font qu'effectivement la société matrilinéaire est quand même très très différente de la société patrilinéaire, et c'est ce que je voudrais reprendre maintenant de façon, alors non plus simplement anecdotique, mais de façon un petit peu plus théorique. Alors, ce qui diffère un système patrilinéaire d'un système matrilinéaire, ben vous le savez, c'est la descendance. C'est que la filiation se fait par les hommes du côté patrilinéaire, alors qu'elle se fait par les femmes du côté matrilinéaire. Et qu'il y a une différence, effectivement, qu'il y a une similarité à ce niveau-là. À savoir que nous sommes en rapport, nous avons des groupes de filiation. Et ces groupes de filiation, qu'ils soient patri ou matrilinéaires, bon, ont les mêmes des caractéristiques communes. Ils sont exogamiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se marier à l'intérieur du groupe. Ils sont très hiérarchisés selon les générations. Ça, c'est le propre à l'Afrique, on le retrouve très souvent. Les aînés doivent effectivement le respect, les cadets doivent le respect aux aînés et les aînés aux anciens. Et ça, c'est très marqué. Il y a aussi une solidarité de groupe. Lorsque on est malade, les autres viennent à votre secours, et lors des deuils, effectivement, plus particulièrement. Donc, il y a une solidarité de groupe dans les deux types de groupes, qu'ils soient patri ou matri. De même, ces groupes de filiation sont propriétaires de terres. Chez les Bamiliki, ils sont propriétaires des terres sur lesquelles on cultive. Chez les Perret aussi, mais ce qui compte chez les Perret comme propriété, puisqu'on est dans la savane et que l'espace est très libre, c'est les aires de chasse et les aires de pêche, qui appartiennent à des clans, qui appartiennent à des matrilignages, et qui constituent la richesse des matrilignages. Bon, voilà, alors, il y a comme ça beaucoup de traits communs entre patrie et matrilinéaire, mais rien qu'à ce niveau-là. Rien qu'à ce niveau-là, au niveau de la pure filiation, il y a déjà des différences. Il y a des différences parce que chez les matries, ce qui fait unité, c'est la mère et c'est l'utérus. Et les Perret le disent de cette façon-là. Quand ils appartiennent au même clan, ils disent « nous avons le même nombril ». Où nous avons les mêmes intestins. Et très souvent, dans toutes les sociétés matrilinéaires, ils disent « nous avons le même ventre, nous sommes issus du même ventre ». Et il y a un lien très organique qui relie tous les individus qui sont reliés par la filiation matrilinaire entre eux. Et ce lien fait naturellement qu'ils sont très solidaires des uns des autres, qui se doivent l'hospitalité, mais ça a aussi un revers. Le revers, qui est bien connu dans les sociétés matrilinéaires, c'est que lorsqu'un des membres meurt, eh bien, ça crée une espèce de brèche dans le groupe. Et c'est très mal supporté, ce qui fait que c'est l'objet d'accusations de sorcellerie sans nom, et qui portent toujours sur les membres du groupe. Ce qui fait que j'ai vu chez les Perret des individus accuser leur mère de sorcellerie, ou leur père, pas leur père, non, leur mère ou leur frère, ou leurs oncles maternels. Et il y a des dissensions familiales qui ont lieu à ce moment-là, qui sont très très fortes. Mais comme ce qui se passe toujours chez les matrilinaires, c'est pas le groupe qui fait les rites d'enterrement, puisque s'ils touchent le corps du cadavre d'un des leurs, ils risquent d'être contaminés par la mort, puisqu'ils forment un groupe très organique. Donc c'est les paternels, c'est les alliés qui font les rites d'enterrement et les rites funéraires, et ça c'est bien connu chez les matrilinaires. Par contre, chez les patrilinaires, ce qui fait l'unité, c'est le sang. Comme ils disent, c'est déjà beaucoup moins organique. Et puis c'est surtout le nom de l'ancêtre commun dont ils descendent. Et alors c'est là où on retrouve, si vous voulez, au niveau sociologique, bien quelque chose qui est très très connu des Romains, à savoir que le côté de la mère c'est certain, mater certissima, et que le côté du père est plus symbolique, donc plus incertain, pater incertus. Et c'est quelque chose aussi qu'on reconnaît dans la psychologie, puisqu'on dit que le rapport à la mère implique des relations duelles, alors que le côté père, c'est un peu différent, ça implique une relation tierce. Et tout ça, on le retrouve très clairement dans la sociologie des matrilinéaires. Voilà. Alors, pour ce qui est des différences là que j'ai faites au niveau de la filiation. Mais si on veut bien rentrer dans les systèmes de parenté matrilinéaire, il faut passer à l'alliance. C'est pour ça que j'ai mis ce schéma ici, où je vous ai dessiné ici côté patrilinéaire, et là ici le côté matrilinéaire. Alors, j'ai marqué chaque fois un homme qui épouse une femme et qui a un frère, le frère marquant le lignage d'origine de la femme. Et donc ici, vous avez tout le côté patrilinéaire que j'ai marqué, que j'ai simplifié. Et ici, le côté matrilinéaire, savoir que vous avez une femme qui a un frère et ses enfants appartiennent à son groupe. Alors, on va faire ressortir un certain nombre de points caractéristiques des matrilinéaires et par rapport au patrilinéaire avec ce schéma. La première chose qui ressort et qui est excessivement importante, c'est que ce qui est central, la relation qui est centrale chez les patrilinéaires, c'est le couple, c'est mari-femme, qui est au centre et qui est déterminant. Alors que chez les matrilinéaires, ce qui est central, c'est la relation sœur-frère. Je dis bien sœur-frère parce que la sœur est première. C'est elle qui transmet l'appartenance au groupe. Son frère ne la transmet pas. Donc c'est la relation sœur-frère et effectivement, on a une différence très forte. Côté patrilinéaire, c'est une relation sexuée qui est centrale. Alors que chez les matrilinéaires, c'est une relation totalement asexuée, à savoir qu'il doit y avoir aucun rapport sexuel, effectivement, et aucune approche, même, je veux dire, ambiguë, entre un frère et une sœur. Ils se tiennent à distance, les frères et les sœurs, et surtout pour que rien de sexuel puisse être soupçonné entre eux. Donc on voit bien que là, il y a deux relations tout à fait différentes qui président aux deux types de groupes. Par contre, ce qui va être encore plus déterminant, c'est le statut des femmes. C'est le statut des femmes dans le mariage. Alors, quel est le côté patrilinéaire? Vous avez une femme, elle vient d'un autre groupe, qui n'appartient pas au groupe de son mari. Et elle rentre, lors du mariage, dans le groupe de son mari, et elle y rentre en tant qu'épouse et mère de son mari. Et ça veut dire qu'effectivement, elle y rentre, si vous voulez, avec un double statut. Le statut de femme et le statut de mère. Alors, ça a deux implications. Premièrement, à savoir qu'il faut qu'elle sorte de son lignage pour rentrer dans celui de son mari où elle va faire des enfants, les enfants qu'elle va avoir étant ceux de son mari. Et c'est ce qui fait que chez les patrilinéaires, le problème essentiel, c'est le mariage. C'est comment faire qu'effectivement une femme puisse rentrer dans le groupe pour que ses enfants puissent bien appartenir au groupe du mari. Autant chez les matrilinéaires, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'enterrement, c'est les rites funéraires, la séparation. Autant chez les patrilinéaires, ben, c'est faire rentrer une femme. Et alors, c'est pour ça qu'il y a des dots, c'est pour ça qu'il y a des prix de la fiancée excessivement importants chez les patrilinéaires et que le mariage occupe une place prépondérante. Alors que, comme je vous le dirais, chez les pérés, le mariage est très simple. Alors, ce qui est important, c'est que si une femme rentre en tant qu'épouse et mère dans le groupe de son mari, ça veut dire effectivement que la sexualité et la procréation sont liées. Et chez les patrilinéaires, il n'y a pas de problème. Sexualité et procréation sont complètement liées l'un à l'autre. Il n'est pas question d'envisager une sexualité en dehors de la procréation. Les deux sont étroitement liés et on sait que pour toute l'Afrique, la sexualité, c'est la procréation, c'est le fait d'avoir des enfants et que les enfants, c'est la richesse par excellence qui va agrandir le lignage et qui fait que la société se reproduit. Par contre, chez les matrilinéaires, et alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'une femme, elle est d'abord mère pour son propre groupe, elle est mère pour son frère et elle est épouse pour son mari. Et c'est là où il y a une distinction très forte. Il y a une distinction très forte entre les deux parce que, elle n'a pas du tout le même statut que la femme de côté patrilinéaire et parce que la sexualité et la procréation sont séparées. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, les mariages vont se faire beaucoup plus facilement. Chez les Perret, le mariage, c'est une espèce de rapt, mais qu'on s'entend, le garçon et la fille décident de vivre ensemble, puis ils partent. Et la fille part, elle va rejoindre le mari, et au bout d'un mois, elle revient en disant à ses parents, ben voilà, je suis mariée. Et à ce moment-là, on traite, effectivement, on fait quelques rites de séparation pour que, avaliser le mariage. Alors c'est très différent de chez les Perret. De plus, effectivement, là, comme je vous le disais, la sexualité est très libre, d'autant plus libre qu'effectivement, il n'y a pas de lien de filiation pour l'homme avec une femme qui passe, je veux dire, par sa relation sexuelle. Sa relation sexuelle est pure relation sexuelle indépendamment de la procréation. Et alors surtout, c'est ce qui se passe chez les matrilinéaires, il y a une instabilité conjugale très très forte. On arrive à des taux de divorce de 50%. Alors que côté patrilinéaire, c'est 15%. Donc ça fait quand même des différences très, très importantes. Voilà, alors ça, c'est, je dirais, quelque chose de fondamental. Alors cette différence entre procréation et cette différence ici entre procréation et sexualité, cette union entre sexualité et procréation côté père, a naturellement des conséquences très importantes sur l'intégration des enfants dans le groupe de leur mère et dans le groupe de leur père. Et effectivement, chez les Perret, comme dans les sociétés matrilinéaires d'une façon assez générale, eh bien, il va y avoir effectivement, l'enfant n'a pas du tout le même rapport avec le groupe de sa mère auquel il appartient, de façon très forte, et le groupe avec de son père dans lequel il est inclus. Alors là, j'utilise effectivement des termes qui appartiennent à la théorie des ensembles. Mais justement, je les utilise parce qu'une fois n'est pas coutume, ça marche. Et là, la théorie des ensembles marche très très bien et je pense qu'il faut carrément en profiter. Alors, la théorie des ensembles, c'est pas compliqué, on en a tous fait. Vous avez trois éléments, A, B, C, qui sont intégrés dans un ensemble A et on écrit A, B, C appartient à A. Bon, ça c'est l'appartenance. Alors l'inclusion, qu'est-ce que c'est l'inclusion ? L'inclusion, c'est quand vous prenez cet ensemble A et que vous l'intégrez dans un ensemble supérieur E. À ce moment-là, vous ne dites pas A appartient à E, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la théorie des ensembles. Vous dites A est inclus dans E. Et alors, ce qui est important, et ce que disent bien les mathématiciens, quand cet ensemble est inclus dans un ensemble supérieur, les éléments n'appartiennent pas forcément. Les éléments de A n'appartiennent pas forcément à E. Ils peuvent appartenir, mais ils n'y appartiennent pas forcément. Alors, c'est ce que je reprends pour bien expliquer. Un individu Perret, homme ou femme, il appartient à son groupe réellement matrilinéaire, à son clan, comme ils appellent le clan, et il est inclus dans le matrilignage, dans le clan de son père, mais en tant qu'il constitue un sous-groupe, le sous-groupe des fils de clan, c'est-à-dire des enfants des fils du clan. Et c'est là, effectivement, qu'effectivement, il va y avoir une différence très forte. Il appartient totalement au groupe de sa mère et au groupe de son oncle maternel, dont on va voir qu'il joue un rôle important, et il est inclus dans le groupe de son père, à savoir qu'effectivement, il y est inclus en tant que tous les enfants de clan. Et effectivement, les Perret disent, quand pour se désigner et pour désigner le fait qu'ils sont intégrés, qu'ils ont un lien avec le clan de leur père, ils disent « je suis un enfant de clan ». Et ils disent, ou ils disent même « nous sommes des enfants de clan Nimvarem », »,« nous sommes les enfants du clan ». Et ils sont les enfants de clan en tant qu'ils sont un sous-groupe inclus dans le clan du père. Alors actuellement, leur rapport avec le clan du père est beaucoup plus symbolique. Alors c'est ça qui est assez étonnant chez les Perret, c'est qu'ils appartiennent à des clans totémiques. Hippopotame, crocodile, puis le petit mille, et puis la sphélia, et puis le brouillard, parce que les noms de clans, il y en a beaucoup, ils ont une quinzaine de clans divisés en sous-clans, qui sont en forme des unités exogamiques, et il y en a une quarantaine en tout d'unités de clans. Alors, ces clans, effectivement, auxquels ils sont reliés par les intestins, ayant le même intestin, le même type de nombril, le rapport est fort. Et effectivement, il y a une solidarité très forte, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, par rapport à ce groupe maternel. Alors, par contre, avec le clan de leur père, où ils sont inclus en tant que sous-ensemble, en tant qu'enfants de clan, ce sont eux seuls, et c'est ça qui est extraordinaire, qui peuvent prononcer la devise du clan de leur père. Ce sont les enfants de clan, les enfants de fils du clan, qui prononcent la devise. Alors, la devise du clan du buffle, c'est « enfants de clan du buffle ». Le buffle m'a encore né. Ma grand-mère vit dans les Sissongo. Alors, justement, vous voyez bien que la devise porte sur « enfants de clan ». Enfant du clan du buffle, le buffle m'a encore né. Ma grand-mère vit avec ses cornes dans les Sissongo. Alors, vous pouvez avoir aussi une autre devise, celle du petit mille. Enfant du clan du petit mille, parce que c'est toujours les enfants du clan qui la prononcent. Le mille, la bière de mille m'a saoulé. Ma grand-mère est dans le grenier, puisque le petit mille, c'est effectivement ce qui sert à l'alimentation quotidienne et qui est conservé dans les greniers. Alors, on voit bien qu'il y a un rapport éminemment symbolique avec le clan du père et un clan réel avec le clan de la mère. D'ailleurs, ils disent qu'ils sont nîmes d'oreilles du côté de la mère, c'est-à-dire j'ai le pied dans le clan de ma mère, j'entre dans le clan de ma mère, doré c'est là, à la fois le pied et entrée, et alors qu'ils sont uniquement enfants de clan, un sous-ensemble, mais un sous-ensemble qui répond symboliquement du clan. Et c'est ça qui est important. Alors c'est là où, si vous voulez, va apparaître maintenant deux choses importantes, à savoir que le père, qui représente le clan paternel, et l'oncle maternel, qui représente le clan matrilinéaire, le clan de la mère, eh bien, représentent deux lois tout à fait distinctes. Alors, l'oncle maternel, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il doit assurer l'unité du matrilignage. Il doit nourrir, si ses enfants crèvent de faim, on va chez l'oncle, l'oncle aura toujours du mille dans son grenier pour nourrir. Il doit aussi soigner. Et il soigne ses nièces, surtout pour qu'elles puissent reproduire et qu'elles puissent donner des enfants, parce que le groupe dépend des enfants que les nièces font mettre au monde. Donc, si vous voulez, l'oncle maternel a un côté maternant. Il nourrit et il soigne. Et il a aussi un rôle, alors, effectivement, de juridiction forte. C'est lui qui peut sanctionner. Et alors, c'est lui qui peut, quand l'enfant ne va pas bien et qu'il faut le sanctionner, le battre, lui infliger une punition corporelle, il n'y a que l'oncle maternel qui va pouvoir faire ça. Il est bien entendu que le père ne pourra pas le faire parce que le père n'a pas le même corps, n'appartient pas au même groupe que son fils. Par contre, l'oncle maternel le peut. Et on raconte même qu'autrefois, au temps des esclaves, eh bien, lorsque les radieurs arrivaient, parfois les oncles maternels donnaient tout de suite quelques-uns de leurs neveux pour préserver que tous ne partent pas. Et donc c'est lui qui avait droit de vie et de mort sur ses neveux pour les donner et qu'ils partent en esclaves. Alors il y a une autre histoire un petit peu plus drôle qui était racontée par le curé missionnaire, puisque ça ne fait pas tellement longtemps que les Pérés ont une route qui les relie à l'ensemble du Cameroun. Et que le curé que j'ai connu était celui qui avait créé la première école missionnaire dans le coin, là où j'ai travaillé à Almé. Et il avait amené quelques maîtres, et les maîtres sont allés voir les familles en disant, en octobre, on va créer une école, est-ce que vous êtes d'accord pour que les enfants viennent à la maison? Puis ils sont allés demander ça aux pères et aux mères, parce que les enfants vivent avec leurs parents, ils vivent avec les pères et les mères. Et les parents ont dit, oui, tout à fait, d'accord. Alors ils ont construit l'école, et puis ils ont commencé, et puis en septembre, au moment du premier jour de rentrée, qui avait été averti, tout le monde le savait, aucun enfant. Alors, les maîtres sont allés voir les familles, puis leur ont dit, mais vous nous avez bien dit que vous étiez d'accord pour que les enfants viennent. Et le père a dit, oui, moi j'étais d'accord, mais l'oncle n'est pas d'accord. Et effectivement, les oncles qui vivaient en brousse étaient méfiants par rapport à tout ce qui pouvait se passer au village d'Almé, et c'est eux qui disaient non, et c'est eux qui, en dernière instance, ont le pouvoir de décider. C'est pour ça qu'effectivement, le pouvoir de l'oncle maternel, c'est un pouvoir fort, on peut l'appeler une potestas. Et c'est un pouvoir par rapport au groupe. Il assure la continuité et l'unité du groupe. S'il sanctionne, c'est pour que tout le groupe reste uni. C'est un représentant de la loi du groupe, et c'est ça qui prime. Alors, quelle est la loi du père par rapport à cette loi de l'oncle maternel? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, le père? Le père, effectivement, lui, il donne le nom à l'enfant, donc il le sépare. Il va ensuite faire en sorte que ses enfants, ses fils soient initiés. Et on sait que l'initiation va faire coupure, va séparer l'enfant de la mère. Donc il est séparateur. Au moment du mariage, c'est lui aussi qui va bénir sa fille, de telle sorte que c'est lui qui avalise « maintenant tu es la femme d'un tel ». Donc effectivement, c'est lui qui sépare sa fille de son propre clan pour dire « sexuellement, maintenant, tu es relié à un autre groupe ». Et c'est lui aussi alors qui va présider au rite funéraire, puisqu'on sait qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours les paternels qui vont faire les rites funéraires des maternels. Donc le père est un séparateur, ça c'est clair. Mais alors il est aussi un personnage auquel les enfants vont s'identifier, parce qu'il vit quotidiennement avec ses enfants. Et ces enfants vont apprendre à cultiver le mil, vont apprendre à chasser. Alors la chasse, très importante chez les pères, ils en font beaucoup, il y a juste une réserve au-dessus, ils ne se prévent pas d'y aller pour tuer un certain nombre d'animaux. Donc l'enfant apprend les gestes et toutes les techniques de culture et de chasse avec son père, il s'identifie à son père. Et alors ce qui est étonnant, c'est que le père, bon, et si vous voulez, une sorte de maître qui apprend à son fils à vivre, et en aucun cas, le père ne peut sanctionner corporellement son fils. Donc on a l'impression qu'ils sont dans une relation, si vous voulez, ben pas du tout tendue. Et effectivement, on voit très bien que les pères, pour éduquer leur fils, ils jouent sur la valorisation, ils valorisent son fils, ils disent ben, « tu fais bien, tu réussis bien ». Et au contraire, ils ne jamais, où il essaye d'éviter, ben, effectivement, les punitions. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Alors, troisième chose, le père est aussi le guérisseur. C'est lui qui pratique la magie. Alors là, je peux pas rentrer dans tous les détails, mais je peux vous dire une chose. C'est que le guérem, dont on vous a parlé tout à l'heure, effectivement, ces instruments de musique secrets que seuls certains groupes ont. Et en fait, je m'imaginais que c'était la possession, au départ, des clans maternels. Et puis j'ai appris, mais à force de faire l'ethnographie et apprendre à détailler, eh bien que les noms de ces guérem n'étaient pas du tout des noms de clans, mais des noms de fils de clans. Il s'appelle Nigelois, c'est-à-dire enfant du lion. Il s'appelle Banzelois, c'est-à-dire enfant du buffle. Ou Ningelois, c'est-à-dire enfant d'Ungelois, enfant de l'hippopotame. Donc le guérem est exactement comme les enfants de clan. Et il se transmet de père en fils. Il ne va pas du tout se transmettre donc le maternel à neveu, comme ça se fait dans la transmission matrilinéaire. Et ces guérems, c'est ce que je montre un peu dans le livre, c'est finalement un séparateur. La magie est séparatrice chez les pérés, mais parce qu'elle est ancrée, arrimée au système de parenté. Voilà. Alors c'est ça qui fait l'originalité de ces systèmes matrilinéaires et qui vous permet de voir maintenant qu'effectivement, les rites thérapeutiques ont un certain efficience parce qu'ils consistent toujours à séparer l'enfant du clan maternel qui est trop fort pour l'insérer dans un autre, pour l'inclure symboliquement dans un clan plus où les relations sont plus détendues, plus paisibles, plus pacifiques. Voilà. Alors, il ressort de ce petit exposé que je vous ai fait bien deux choses. À savoir que sexualité et procréation sont liées ici. Alors, je vais recommencer par là. Sexualité et procréation sont séparées ici. Et les fonctions paternelles de l'oncle maternel et du père sont séparées. Ici, on a l'oncle maternel qui représente la loi du groupe. Et ici, on a le père qui est séparateur, qui est celui auquel l'enfant s'identifie et qui représente, lui, la loi des échanges. Exactement la loi des échanges telle que Lévi-Strauss la prône comme étant celle qui est au cœur et au principe même de l'interdit de l'inceste. Et cette loi est positive, naturellement, de l'interdit de l'inceste, comme Lévi-Strauss l'a dit. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas du tout à insérer ses enfants dans un groupe, mais à ce qu'ils rentrent dans le jeu de la société. Et pour rentrer dans le jeu de la société, il faut rentrer dans les échanges. Et donc, le père, lui, n'a pas de potestas, il n'a aucun pouvoir, mais il a ce qu'on pourrait appeler une auctoritas, une autorité. Une certaine autorité, et s'il est compétent, il se fait respecter, et c'est lui qui introduit l'enfant dans le monde de la société. Et surtout, plus les garçons, mais aussi les filles, puisqu'ils introduisent dans l'alliance, et que l'alliance est absolument fondamentale pour elles. Alors, là où sexualité et procréation sont séparées, on a deux lois séparées. Par contre, là où procréation et sexualité sont liées, eh bien, le père, ici, chez les patrilinéaires, il assume les deux fonctions. Celle de l'oncle, il est père, il représente la loi du groupe, et il est aussi celui qui introduit l'enfant dans la société par le biais des échanges. Alors ça, c'est quand même intéressant, parce que c'est uniquement par le biais de l'anthropologie, par la comparaison des systèmes de parenté, qu'on va avoir une règle parentale qui tienne. À savoir qu'effectivement, si la procréation et la sexualité sont séparées, on va avoir deux lois séparées. Par contre, si elles sont reliées, elles sont reliées. Alors c'est là où effectivement, je pense que Ce système de parenté, enfin cette règle, peut nous aider à mieux comprendre l'évolution de notre système de parenté que nous voyons mal parce que nous avons l'arbre qui nous cache la forêt. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans notre système de parenté? Rappelons vite. Eh bien, c'est qu'au cours du XXe siècle, eh bien, le père a perdu tout le privilège de sa fonction paternelle. 1895, abolition du droit de punition. 1938, abolition de la puissance matrimoniale, c'est-à-dire qu'une femme peut travailler sans l'autorisation de son mari. 1970, père et mère sont tous les deux reconnus devant la loi comme étant des parents à part égale, des conjoints. Il n'y a plus de privilège. Puis en 2005, le patronyme qui était marqué et qui rappelait symboliquement la filiation patrilinéaire, enfin la lignée patrilinéaire, n'est plus du tout dominant. On savait qu'il est remplacé par un nom de famille. Alors, en un siècle, le père a perdu tous ses privilèges, tous ses pouvoirs. Et quels sont ses pouvoirs? Ben, c'est les pouvoirs de la loi du groupe. Il ne représente plus du tout la loi du groupe. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'effectivement, pendant tout le même temps, la sexualité s'est séparée de la procréation. Et c'est assez avalisé, cette séparation, dans les années 70, au moment où la pilule contraceptive a été complètement généralisée. Et c'est à ce moment-là que toutes les lois, d'ailleurs, sur le fait que l'enfant a droit, l'adolescent a droit à l'information sexuelle, sur l'enfant illégitime qui est égal et qui a même droit que l'enfant légitime, toutes ces lois arrivent à ce moment-là. Et effectivement, il y a eu une espèce de bascule. Effectivement, la famille, au sein de la famille, la loi a changé. Ce n'est plus du tout la loi du groupe, c'est la loi des échanges. Et la loi des échanges, la femme, la mère, la représente autant que l'homme. On est à part égal, il n'y a plus de distinction. Alors, ce qui est une conclusion, un corollaire de cette évolution, eh bien, c'est que la religion, qui est liée au groupe, comme vous le savez, Durkheim l'a dit, et là, c'est pas tant, eh bien, devient ce délite. Et qui se met en place, c'est quelque chose de tout autre. Et c'est une société qui n'est pas du tout fondée sur le groupe, c'est une société qui est fondée sur le réseau. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Castel et sa société de réseau. C'est la nouvelle société de l'informatique qui est fondée sur le réseau. Puis on le voit bien avec les adolescents, je le vois avec les adolescents. Même quand ils sont déscolarisés, ils vont au cybercafé. Puis ils tapent, et puis ils tchatchent. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils rentrent en réseau avec un certain nombre de personnes, ils se discutent. Pendant un temps, ça marche, puis quand ils en ont assez, ils repassent à un autre, etc. Et le réseau est tout à fait différent du groupe. Et effectivement, il y a quelque chose de la sociologie qui a transformé progressivement notre système de parenté et qui se comprend mieux, eh ben, si on veut bien passer par la comparaison des systèmes de parenté en anthropologie. Et je pense qu'à cet égard, l'anthropologie n'est pas du tout une science morte, mais au contraire qu'elle est encore pleine de vie, et j'espère que ça continuera.